famille.
Ah bon, merci d'être venu.
Merci beaucoup. Je suis très honoré, très content d'être parmi vous pour parler de la problématique énergétique au niveau européen. Donc mon intervention, donc pour rappeler notre Europe, c'est la fondation qui a été créée par Jacques Delors et Pascal Lamy quand ils ont quitté la Commission européenne. Et dont, comme vous le voyez, le motto est de penser à l'unité européenne. Donc on traite de nombreuses questions, et notamment de la politique énergétique. Alors, il y a un projet particulier, et je terminerai ma présentation en décrivant un peu ce projet, qui essaie de lancer des pistes de réflexion pour vraiment avancer dans le cadre d'une politique énergétique commune. C'est un projet qui tient à cœur Jacques Delors, qu'on a lancé il y a quelques mois maintenant, et qui est un projet, en deux mots, de lancer une communauté européenne de l'énergie, un peu inspirée des traités fondateurs tels que la CECA, le RACOM, etc. Voilà, donc ma présentation est vraiment de vous donner un panorama assez large, une vision d'ensemble de ce qu'est la politique européenne de l'énergie aujourd'hui, comment elle en est arrivée là, quels sont ses principaux éléments, quelle est la stratégie qui est développée, principalement depuis 2005, quelle est la situation de l'Europe par rapport aux principaux défis et challenges énergétiques. Et puis enfin, de voir quels sont les problèmes, les facteurs de blocage et comment on peut essayer d'envisager d'aller un peu plus loin dans ce domaine. Donc j'ai une petite présentation PowerPoint très simple pour essayer de soutenir un peu la présentation. Donc tout d'abord, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a, donc l'Union européenne est faite et basée sur des traités. La configuration de la salle d'ailleurs s'y prend très bien. On voit trois piliers. Ça s'applique parfaitement dans le cadre de l'Union européenne et encore plus dans la politique énergétique. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, ce qui est intéressant de noter au niveau de l'énergie, c'est qu'au niveau européen, c'est un secteur dans lequel on a clairement régressé. À l'origine, l'Europe s'est créée sur le traité CECA, que vous connaissez tous, qui adressait directement la première et principale source d'énergie à l'époque, le charbon. Ensuite sont venus les traités Euratom et le traité des communautés économiques européennes en 1957. De nouveau, à l'origine, l'Euratom, qu'est-ce que c'était? On prenait tout un nombre de règles contraignantes pour organiser un secteur qui était le secteur nucléaire civil, qui était représenté à l'époque comme le grand secteur énergétique d'avenir. Donc, il y avait deux instruments majeurs, un premier sur l'énergie présente et un deuxième sur l'énergie d'avenir. Donc, à cette époque-là, il a été décidé de ne rien introduire dans le traité qui créait la communauté économique européenne sur l'énergie. Les deux autres traités devaient être suffisants. Alors, le traité CECA avait une durée limitée de 50 ans et donc est arrivé à expiration en 2002 sans être renouvelé. Progressivement, on s'est rendu compte que d'autres sources d'énergie étaient majeures, telles que le pétrole et le gaz. Malgré ça, il n'y a pas eu, dans les traités successifs, d'introduction de règles qui traiteraient spécifiquement ces types d'énergie. Donc, jusqu'à, y compris la révision des traités en 92, donc le traité de Maastricht, y compris avant l'acte unique européen, après le traité d'Amsterdam, Nice, etc., la problématique énergétique était absente des traités. La seule chose qui a été introduite, c'était une vague référence dans les objectifs généraux de l'Union européenne, et l'énergie était dans cet article au même titre que la culture, le tourisme, etc. Donc, pas plus que ça. Vient ensuite, finalement, le traité de Lisbonne, qui est toujours en cours de ratification, dont on espère la ratification très bientôt, et pour la première fois, l'énergie est introduite en tant que problématique spécifique dans ce traité. Ça veut dire que, pour les juristes, il y a une base juridique qui permet à l'Union européenne d'agir plus directement dans ce domaine. L'Union européenne est une organisation qui ne peut agir que lorsqu'elle est compétente et qu'elle reçoit ses compétences des traités, etc. Donc l'énergie, pour la première fois, y figure. Mais quand on y regarde de plus près, ça correspond en fait à une codification de la pratique existante. Donc, pour résumer, pas de révolution apportée par le traité de Lisbonne dans le domaine de l'énergie. Il fixe les grands objectifs qui sont la réalisation d'un marché, qui sont la sécurité énergétique, qui sont notamment le développement de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, et finalement le développement des interconnexions. Au-delà de ça, il y a une clause de solidarité qui est mentionnée, mais c'est un grand principe abstrait. Il n'y a pas, pour le moment, de dimension opérationnelle d'un tel principe de solidarité. Donc, pas de révolution. Dernière dimension qui est intéressante au niveau du traité de Lisbonne, c'est qu'il y a une petite révolution au niveau de la politique étrangère européenne, avec les grandes figures dont on parle beaucoup pour le moment, qui serait le président permanent de l'Union européenne, mais aussi un haut représentant, qui est censé être un espèce de ministre des Affaires étrangères européen, et qui serait accompagné d'un service diplomatique européen en tant que tel. Et donc il y a toute une série de discussions aujourd'hui de savoir si la politique énergétique devrait aussi faire partie des compétences de ces nouvelles personnes, qui permettraient de projeter, de promouvoir plus directement le pouvoir européen sur la scène internationale pour les grandes questions énergétiques. Alors, quelles sont les grandes étapes de l'étude? Je n'ai pas vu à quelle heure j'ai commencé.
Je vais faire signe quand vous avez...
Ouais. Donc, sur les grandes étapes de l'évolution de la politique énergétique, même si elle n'était pas présente dans les traités, il y a quand même eu quelques balbutiements qui se sont transformés en concrétisés en quelques initiatives. Donc, les premières initiatives, c'est les années 60 à 1986. Ce qui est intéressant, c'est que pendant toute cette époque, il y a eu, vous le savez, plusieurs crises énergétiques pétrolières. La réponse à ces crises a été principalement nationale. Quand elle n'était pas nationale, qu'elle était internationale, ce n'était pas dans le cadre européen, mais dans le cadre des grandes institutions internationales, principalement l'OCDE, ou, ce qui a été créé un peu plus tard, l'Agence internationale de l'énergie. Donc les États membres favorisaient leurs propres solutions, leur propre souveraineté pour répondre à ces crises d'une ampleur mondiale, et préféraient au niveau international autre chose que l'Union européenne. Malgré ça, la Commission a essayé progressivement d'adopter des petites initiatives et de pousser la communauté européenne pour qu'elle agisse et qu'elle développe une vision d'ensemble. Mais tous ces instruments n'étaient que des textes, donc des communications, des résolutions, etc. Donc des grandes déclarations non suivies des faits. Et puis est arrivé en 1986 l'acte unique européen et le livre blanc pour la réalisation du marché intérieur, marché commun, donc des grandes libertés de circulation des biens, des marchandises, des services, des capitaux, des travailleurs, etc. Et la seule réalisation qui a été faite à cette époque pour l'énergie, c'est d'inclure l'énergie parmi ces biens, un bien comme un autre, et de traiter la problématique énergétique par la réalisation du marché intérieur. Ça veut dire que les outils qui ont été appliqués à la problématique énergétique n'étaient en aucun cas spécifiques à cette problématique, c'était des outils simples de libre circulation d'une marchandise. Donc c'était le marché, et ensuite la concurrence. Donc instaurer la libre concurrence, donc la libéralisation des marchés d'énergie. Les premiers instruments qui ont été adoptés, c'était en 1996 et 1998, ce sont des directives européennes pour le gaz et l'électricité, et qui ont été ensuite amendées et redéveloppées en 2003. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que le focus est vraiment sur l'harmonisation et la libéralisation des marchés. Point. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce sont ce qu'on appelle des directives cadres. Ça veut dire que ça met un cadre général à minima pour les différents États membres. Et ceux qui veulent aller plus loin sont évidemment libres d'aller plus loin, mais tous ceux qui ne veulent pas aller plus loin que ce cadre à minima sont libres de ne pas aller plus loin. Donc voilà un peu la philosophie qui s'est développée. Et puis, 2003, premièrement, la Commission a fait une grande enquête en 2005 et s'est rendu compte qu'il y avait encore un nombre incroyable de déficiences au niveau du marché. Elle s'est aussi rendue compte que presque tous les États étaient toujours en violation de ces directives cadres, soit ne les avaient pas complètement appliquées, soit ne respectaient pas leurs principes. Et j'en viens à 2005 où ce qu'on appelle une nouvelle politique énergétique européenne a été développée. Avant de revenir sur ce que c'est, je voudrais juste voir, rappeler le contexte dans lequel elle s'est développée. Donc évidemment, la compréhension des enjeux et de l'importance de ces enjeux climatiques, avec notamment les rapports de l'ONU, etc., est devenue beaucoup plus grande à cette époque-là. Ensuite, donc, la crise économique, donc se pose toute cette question d'une nouvelle révolution industrielle verte. La volatilité des prix des matières premières, incroyable en 2007-2008, qui continue et qui continuera encore dans les années à venir. Il y a eu cette crise du gaz importante entre la Russie et l'Ukraine, crise du gaz entre ces deux partenaires commerciaux, mais évidemment une crise de solidarité européenne, parce que l'Europe s'est rendue compte qu'elle était incapable d'assurer la solidarité de ses États membres, et donc la sécurité énergétique de ses États membres. Donc crise européenne. Ensuite, au niveau de la position de l'Union européenne, il y a une forte dépendance aux importations pour ses approvisionnements qui ne fera qu'augmenter. Juste quelques figures sur le bouquet énergétique européen, donc il restera dans l'avenir une part dominante pour le pétrole et le gaz. Sur la dépendance de l'UE au niveau des importations, aujourd'hui, rien qu'à l'égard de la Russie, 33% pour le pétrole, 42% pour le gaz. Et quelques images, donc quelques projections de la Commission européenne à scénario constant, donc si on continue dans la politique que nous avons engagée telle qu'elle, à ce moment-là, on voit qu'en 2030, pour le pétrole, la dépendance sera de 95% et pour le gaz de 84%. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a une énorme disparité entre États membres vis-à-vis de cette dépendance aux importations. Certains États ont un bouquet énergétique très diversifié, tel que la France, et donc sont moins sensibles à cette dépendance aux importations. D'autres États sont 100% dépendants, et parfois d'un seul partenaire, notamment la Russie, et c'est le cas de toute une série de nouveaux États membres. Donc depuis 2005, face à toute cette crise, aussi à une époque où la Commission vivait une crise, et c'était une époque où il fallait une Europe, l'Europe qui a été développée était l'Europe des résultats, et donc l'énergie a été vue comme un de ces projets qui sensibiliserait aussi les citoyens, qui rapprocherait l'Europe des citoyens et répondre à la crise. Donc la Commission a développé un premier papier très important en 2006, ensuite qui s'est transformé en une proposition législative, donc l'adoption d'un paquet législatif, qui a été finalement adopté en 2008. Alors c'est le paquet énergie-climat. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on commence à avoir une politique d'ensemble qui traite de différents problèmes. Elle repose sur trois piliers majeurs. Le premier, c'est le marché, toujours, mais qui est moins vu comme une fin en soi, mais plutôt comme un instrument. Donc le marché, la concurrence. Le second pilier, c'est le développement durable, donc c'est tout l'aspect du changement climatique, lutte contre le changement climatique, mais aussi la préparation de nos sociétés à l'énergie après pétrole. Donc il y a toute une dimension d'efficacité énergétique, réduire notre consommation. Donc l'Europe agit plutôt sur la consommation, la demande, que sur l'offre. Et ensuite, une politique de développement d'énergie renouvelable. Alors, le grand motto vous connaissez probablement tous, c'est les 3x20. Donc 3x20%, ce sont les objectifs que s'est assigné l'Union européenne. Donc diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre, augmenter de 20% l'efficacité énergétique, donc des bâtiments, de l'industrie et de la consommation des ménages, et du transport. Et ensuite, augmenter de 20%, avoir les renouvelables, l'énergie renouvelable, à hauteur de 20% dans le bouquet énergétique. Alors, ces objectifs, le climat et les énergies renouvelables, sont contraignants. Ça veut dire que si un État ne respecte pas ces objectifs, il y a la possibilité, mais on s'imagine mal comment y arriver, de prendre cet État, de l'emmener devant la Cour de justice et de le sanctionner pour non-respect de son engagement. Par contre, pour ce qui est de l'efficacité énergétique, pour le moment, ce n'est pas encore contraignant. Donc les États gardent une marge de manœuvre. Et puis le dernier pilier, c'est la sécurité. La sécurité énergétique, qui est aussi bien, donc il y a un volet interne, c'est la, le développement de capacités de stockage, donc stockage de pétrole, stockage de gaz. Donc l'idée est que ces stocks permettent de répondre à une crise d'approvisionnement. Donc si pendant X semaines l'Europe n'est plus approvisionnée, elle pourrait actionner ces mécanismes. Ce sont des mécanismes qui existent déjà dans le cadre d'organisation internationale de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, mais qui seraient développés d'emblée au niveau européen. Ensuite, il y a toute une série de mécanismes de gestion des crises. Qu'est-ce qu'on fait quand les Russes arrêtent de livrer le gaz? Est-ce qu'on est capable, par exemple, d'inverser les flux d'une ligne électrique, d'inverser les flux d'un pipeline pour permettre aux États de renverser les flux vers les États, donc ceux qui disposent des stratégies, des stocks stratégiques, vers ces États qui n'en disposent pas et qui subissent la rupture d'approvisionnement le plus gravement. Et ensuite, il y a toute une dimension externe, c'est l'Union européenne en tant qu'acteur sur la scène internationale. Et donc, principalement, ça repose sur la diversification. Il faut que l'Union européenne développe le plus possible de partenariats stratégiques avec les fournisseurs d'énergie, donc Russie, Algérie et bien d'autres encore, mais aussi avec les pays de transit, mais aussi avec les pays consommateurs, etc. etc. Donc, une grande stratégie de diversification. Donc, il y a plusieurs autres instruments qui ont été adoptés par la suite, et notamment, quelque chose d'intéressant, c'est une analyse stratégique de la politique énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la commission qui s'engage tous les deux ans à produire un document qui reprend, en gros, tout ce qui a été fait, tout ce qui va être fait et tout ce qui devrait encore être fait. Alors, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une vision assez large de toutes ces initiatives qui se développent néanmoins de façon chaotique, je reviendrai un peu plus tard, donc d'avoir une espèce de vision générale, une feuille de route, ce qui est assez important pour permettre des avancées dynamiques. Enfin, le troisième paquet énergie, donc du marché intérieur, après les directives, donc il y a eu une plus deux directives gaz et électricité, viennent les troisièmes, qui a été récemment adopté en 2009 sous présidence française. Alors là, normalement, cet ensemble de régulations est censé apporter la réponse définitive pour une réelle libéralisation des marchés européens de l'énergie. Les instruments en tant que tels, la régulation nécessaire, a été adoptée et devrait suffire. Maintenant, le gros problème, c'est la réalité dans les faits. Comment sont nos marchés de l'énergie? Sont-ils vraiment intégrés aujourd'hui? Et la deuxième chose, c'est une espèce de fuite en avant au niveau européen. Pourquoi? Ce qui est intéressant de noter, c'est que le jour où ce paquet d'énergie a été adopté, le lendemain, un jour après, c'est symbolique, la Commission européenne engageait une action contre 25 États membres qui ne respectaient toujours pas le deuxième paquet d'énergie. Donc on en adopte un troisième, et entre-temps, on n'applique toujours pas le deuxième. C'est intéressant. Donc, quels sont les principaux problèmes, on va dire, de la politique actuelle? Donc, consistance, crédibilité, capacité, problème de fiscalisation. Au niveau de la consistance, pour le moment, on n'a pas encore cette véritable vision d'ensemble. On l'a à très haut niveau, il y a ces trois grands piliers, mais sur tout ce qui se développe pour la mise en œuvre de ces trois grands objectifs, on a encore énormément de difficultés à avoir cette vision intégrée, cette vision d'ensemble. La deuxième chose, c'est qu'on a encore beaucoup de mal à avoir une vision européenne. On a une vision européenne des trois grands objectifs, mais sur leur réalisation, on demeure purement dans le débat national. Ça ne veut pas dire que l'échelon national, régional, local n'a pas un rôle à jouer, bien au contraire, mais un rôle une vision transnationale est importante, des projets entre plusieurs pays, par exemple. Et puis enfin, ce qui n'est pas évident au niveau de la consistance, c'est qu'il y a un manque d'arbitrage entre les trois objectifs. C'est-à-dire que ces trois objectifs sont directement interdépendants, et pourtant, par exemple, on décide que sur le changement climatique, on va développer les biofuels, on va concentrer tout sur un pays, et dans le même mouvement, on crée une dépendance importante vis-à-vis d'un seul fournisseur pour l'énergie. Donc il y a un conflit entre l'argument de sécurité et l'argument de développement durable. Et donc pour le moment, la machinerie est incapable, et notamment au niveau de la Commission européenne, entre les différentes directions, parce que chaque direction est compétente pour un segment de la problématique énergétique, et difficulté d'arbitrage même au sein de la Commission. En plus, les choix qu'on engage aujourd'hui dans le cadre de la politique énergétique nous engagent à très long terme. Avant, on parlait de 2020, aujourd'hui, dans tous les documents qu'on trouve, la Commission, etc., la vision qui est développée est à 2050. Et on se rend compte que la politique européenne, parfois, va très vite pour faire un choix d'un grand objectif. J'ai en tête, par exemple, le pipeline Nabucco, et puis qui est censé être un grand projet d'avenir. Et très rapidement, on se rend compte qu'il y a énormément de difficultés pour réaliser ce projet. Énormément. Difficultés, quand on regarde, qui apparaissent assez évidentes, on se dit, mais comment ne pas les avoir vu venir et insister à ce point-là, se lancer à ce point-là dans un projet sans faire un peu l'analyse de... En termes de crédibilité, sur la scène internationale, les États membres restent complètement divisés. La Russie joue avec une facilité déconcertante de la division entre les États membres sur quoi faire avec la Russie. Donc, la question est aussi, que représente un seul État européen aujourd'hui sur la scène internationale pour des problématiques telles que l'énergie face à nos compétiteurs qui sont les puissances émergentes, Chine, Inde, Brésil, etc., qui ont une consommation d'énergie croissante? Qu'est-ce que représente chaque État membre pris séparément au niveau européen? Un manque de crédibilité aussi, un risque de crédibilité sur les objectifs. Pour le moment, les objectifs sont bons, mais les garanties d'atteindre ces objectifs sont encore aujourd'hui assez inquiétantes. Enfin, sur la capacité, je n'y reviens pas, je l'ai déjà mentionné, sur le fait que les règles ne sont pas respectées par les acteurs. Ensuite, un chiffre assez intéressant, c'est le budget européen. Rien que sur les centrales de production d'énergie, à l'horizon 2030, il y a un nombre incroyable de ces centrales qui vont devoir être renouvelées. Rien que sur ce renouvellement, la Commission a chiffré le coût à 900 milliards d'euros. Rien que sur ça. Donc je passe le coût des infrastructures, le coût du développement des nouvelles technologies, etc., etc. Le budget européen, directement dédié à l'énergie, correspond à 20 millions d'euros par an. Donc sur les perspectives financières 2007-2013, on est à 140-150 millions d'euros. Donc qu'est-ce que l'Union européenne est capable de faire uniquement aujourd'hui avec son budget? C'est de financer des études de faisabilité. Donc de faisabilité pour de beaux et grands projets, mais pas encore de soutenir les projets financièrement. Alors il y a d'autres instruments, tels que notamment FEDER, qui eux, directement pour les régions, etc., ont un portefeuille beaucoup plus important pour des projets identifiés, notamment dans les énergies renouvelables, l'efficacité, etc. Mais, de façon générale, le budget européen est très, très, très limité. Donc, pour terminer, il y a un problème de ce qu'on a appelé la pixelisation, c'est-à-dire que nous avons des instruments de libéralisation des marchés. Les marchés sont aujourd'hui libéralisés. On s'était fixé comme objectif 2004 pour les gros consommateurs et 2007 pour tous les consommateurs d'énergie, libéralisation totale. La libéralisation a eu lieu, mais uniquement dans un cadre national. Donc on a 27 États, 27 marchés nationaux libéralisés, mais entre lesquels la concurrence ne joue pas. Donc quand on regarde concrètement les chiffres et les graphiques, il y a très peu d'énergie qui est échangée d'un État membre à l'autre. Il y a des raisons politiques, protection. Par exemple, la France a adopté une démarche pendant longtemps assez protectionniste, et pourtant a des capacités d'exportation de son énergie, et notamment l'énergie faite à base d'énergie nucléaire, énorme, et pourtant, donc politique, et puis technique. Des directives cadres qui harmonisent les grandes règles du jeu, mais qu'est-ce qu'on retrouve en fin, qui est la réalité des marchés? C'est que par exemple, la France ne peut pas exporter du gaz vers la Belgique, parce que le gaz ne correspond pas techniquement exactement au gaz tel qu'il doit être en Belgique. Par exemple, des questions de gaz odorant. Donc voilà des obstacles techniques qui empêchent d'avoir cette intégration des marchés. Ensuite, il y a un manque d'infrastructure, aussi un obstacle technique. L'infrastructure permet évidemment de lier un marché à l'autre et de faire circuler l'énergie d'un marché à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est un projet sur lequel on réfléchit et que nous allons sortir dans les mois prochains. C'est un projet sur lequel on travaille directement avec Jacques Delors et Pascal Lamy. On a mis en place tout un groupe de réflexion avec des grands experts de l'énergie de différents États membres de l'Union et de différents secteurs. Et donc l'idée, c'est de créer une véritable communauté européenne de l'énergie. On a le sentiment qu'il y a une spécificité énergétique qui réclame des règles spécifiques. Point. Donc, on souhaite en finir avec cette approche cadre, à minima, et donc de permettre une véritable intégration européenne dans ce domaine. Alors pour le moment, quel contenu? On a identifié les contenus d'accessibilité, de développement durable, de sécurité et fiabilité, qui correspondent plus ou moins aux trois grands objectifs tout à fait valides que s'est assigné l'Union européenne. Ça correspond en termes d'accessibilité, donc c'est une régulation plus technique, donc qui va beaucoup plus loin qu'à minima. C'est un pouvoir de mise en œuvre direct par une autorité, donc de faire respecter et de sanctionner lorsque les règles ne sont pas appliquées. C'est l'idée d'un régulateur, donc qui est capable d'adopter de la régulation, qui est représenté avec les régulateurs nationaux, qui est aussi capable d'adopter de la régulation pas uniquement technique. Et enfin, d'arbitrer les conflits entre un État pour le transit d'énergie, etc., etc. Des mécanismes de stabilisation des prix et la possibilité d'octroyer des prêts et des investissements aussi aux opérateurs privés. Sur le développement durable, ça nous correspond moins à... C'est pas l'idée de développer toute la politique environnementale de l'Union, qui existe déjà, qui se développe sous Igeneris et qui se développe bien, mais c'est plutôt d'être sûr que les décisions prises au niveau environnemental sont bien adaptées au domaine énergétique et aux spécificités du secteur énergétique. Et puis enfin, dans le développement durable, c'est la question de la fiscalité. Pour le moment, toutes les questions de fiscalité restent soumises à l'unanimité. Dans l'énergie, il y a toute une discussion actuelle de taxer la consommation d'énergie, au minimum d'harmoniser la fiscalité et la taxation d'énergie. Et il y a cette idée aussi de taxe carbone, donc qui est de taxer la consommation d'énergie liée au CO2. Une telle fiscalité permettrait de transférer une ressource propre à l'Union européenne, donc un fonds européen, donc là on est bien loin de ces 20 millions d'euros par an, et qui permettrait un vrai pouvoir de levier sur des projets identifiés et des projets au niveau européen pour cette communauté. Ensuite, développer tout ce qui est coopération, recherche et développement. Enfin, sur la dimension sécurité et fiabilité, c'est évidemment la dimension interne-externe. Ce qu'on essaie de développer, c'est la mise en œuvre de ce qu'on appelle un réseau intelligent. Ensuite, c'est toutes les dimensions SOS, donc en cas de rupture d'approvisionnement, de crise d'énergie, etc., de permettre... Par exemple, il y a des initiatives très techniques qu'on a découvertes là pour la crise de 2009, c'est que la ville est capable d'inverser ses flux énergétiques d'un pays vers l'autre. On l'a découvert que c'était possible via un mécanisme de pompe aux frontières, etc., etc. Ce qu'on souhaiterait, c'est développer, instrumentaliser, structurer de tels mécanismes au niveau européen, avec aussi une prise de décision au niveau européen, de voir où sont les risques, où sont les possibilités, et d'arbitrer les réponses aux crises en droit et non pas en fait. Pas juste un dirigeant qui appelle son collègue et qui dit « voilà, je suis vraiment dans la merde, est-ce que tu peux m'aider et m'envoyer ça, etc. » Donc, vraiment structurer ce serait une solidarité de droit et pas une solidarité de fait dépendante de la volonté politique de tel et tel État. Et puis enfin, alors on va très très loin et on fait très très peur, c'est sur la dimension extérieure, c'est notamment l'Europe parler d'une seule voix vis-à-vis des fournisseurs. Alors quand on regarde des instruments tels que Euratom, qui était à l'origine. Il y avait une possibilité, et je terminerai là, de ce qu'on appelle préempter des deals avec des fournisseurs. C'est-à-dire que pour l'approvisionnement d'uranium, il y avait une agence qui prenait les commandes des États, et puis elle traitait avec des partenaires extérieurs, elle achetait l'uranium, et ensuite le répartissait selon les commandes. On envisage la possibilité d'un tel mécanisme pour, par exemple, notamment le gaz. Donc, pour terminer, comment on peut faire ça ? Donc, j'insisterai pas, sauf si vous voulez en discuter après, sur les différentes options. En gros, dans le cadre des traités existants, c'est très limité. On reproduit l'approche qu'on développe actuellement. En s'inspirant des traités CECA et Euratom, donc c'est la conclusion d'un véritable traité sur l'énergie. Maintenant, est-ce que 27 États membres sont prêts à avancer sur ce projet ? On n'en est pas très convaincu. Donc, c'est l'idée d'un noyau dur. Alors, il y a deux possibilités. Il y a la coopération renforcée dans le cadre des traités, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui permettent au sein des traités à quelques États membres entre eux d'avancer. Quand on lit ça, on a l'impression qu'on a mis ces règles pour être sûr qu'elles ne soient jamais utilisées, tellement les conditions sont compliquées, sont difficiles à atteindre. Donc finalement, il y a une intégration différenciée. C'est ce qui a été fait un peu pour l'euro, c'est ce qui a été fait pour Schengen, c'est ce qui a été refait par Prüm, qui est un avatar de Schengen. Ce sont des réussites. Plusieurs États membres ont décidé d'aller de l'avant. Ça a très bien fonctionné, ça a été très vite. Et ça a été réintégré plus tard dans l'ordre communautaire. Donc le but n'est pas de créer une Europe à deux vitesses avec quelques États qui abandonnent les autres, etc. C'est plutôt ceux qui veulent, de façon ambitieuse, aller de l'avant, qui sont prêts, de pouvoir le faire, et etc. Merci pour votre attention. Je terminerai juste. J'ai vu dans le programme que c'est vrai, l'Europe telle qu'elle se fait aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de Jacques Delors. C'est tout à fait vrai. Mais il ne faut pas voir ça de façon triste, mélancolique ou quoi que ce soit, de regretter l'âge d'or de la Commission, mais plutôt voir que l'Europe est différente aujourd'hui. Il faut l'accepter, ça ne doit pas empêcher de regarder vers l'avenir et d'aller de l'avant. Mais je finirai quand même par une petite citation de Jacques Delors, et qui s'applique toujours bien aujourd'hui et en mon avis encore plus à l'énergie, c'est la méthode communautaire, c'est la compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. Voilà. Merci pour votre attention.